Et avec cette dimension dominante qui est que non, il faut que la France, pilier des droits de l'homme, pilier de tout ce qu'on veut, n'accepte pas ce signe d'obscurantisme, de sexisme, d'inégalité des sexes, etc. Bon. Voilà, c'est absolument clair quoi, que c'est une affaire qui a été montée, qui a été lancée par les médias, qui a été attisée par une concurrence entre les médias, qui a été exploitée par des responsables politiques qui ont joué des jeux à plusieurs bandes pour lutter contre des adversaires politiques en interne ou en externe, et qu'à la fin, on a totalement évacué, ce faisant, la question sociale. Puisque, finalement, on est aussi dans un contexte où Mitterrand vient d'être réélu et qu'on est exactement dans les mêmes thématiques qu'en 81, où à partir du moment où la gauche est au pouvoir, elle évacue la lutte des classes, elle évacue la question de la domination sociale. Bon, ben voilà. Et là, avec ça, avec ce genre de débat sur le foulard, sur l'islam, sur l'intégrisme islamiste, le terrorisme islamique et toutes ces questions-là, on divise absolument les luttes de revendication sociale. Ouais, je veux dire, c'est clair. Et à partir du moment où ça a été lancé comme une affaire médiatique, un certain nombre de gens ont instrumentalisé cette question à d'autres fins, tout bêtement. Voilà, c'est un instrument. L'islam, c'est un instrument. Et je pense qu'il est urgent d'avoir des discours de contre-propagande, quoi. C'est ça la priorité, c'est de lutter contre ce discours de propagande.
Pour la première fois ce matin, la police était présente devant le lycée Romain Rolland. Sans doute pour empêcher les incidents d'hier, quand le lycée était bloqué par un piquet de grève composé d'élèves et de personnes étrangères au lycée.
Antenne 2.
Ce matin, plus de grève, le comité de soutien aux jeunes filles voilées suspend son mouvement.
27 septembre 1994.
Réunis en assemblée générale hier, les professeurs sont catégoriques contre le port du voile au nom de la laïcité, contre les méthodes du comité de soutien.
Ce qu'on sent, c'est qu'il y a une pression, oui, qui s'exerce sur les élèves, qui a quelque chose qui est de l'ordre du terrorisme, si on peut employer ce terme, je crois, dans ces cas-là, puisque c'est une pression qui est aussi bien verbale, d'abord, que physique, et qui met les élèves dans un état de peur. Je crois que c'est ce qu'on appelle le terrorisme.
De la part d'islamistes, de militants islamistes?
Je ne les connais pas. De la part d'individus qui ne sont pas connus de nous comme étant des lycéens.
Abdelaziz Chambi, tu as 52 ans. Mmh. En 1983, tu étais parmi les marcheurs. Donc la marche, ce que la mémoire collective
connais,
a retenu, la marche des beurs.
Bien sûr, j'ai
donc ça, c'était en
1983.
Et en 1992, tu es celui qui a mis ici en place pour la première
le
fois en 1992.
Le premier congrès de la jeunesse musulmane, effectivement, en 1992 ici, avec l'Union des jeunes musulmans, dont je suis un des cofondateurs. On a lancé un travail au Menguet. Alors, c'était pas le hasard, on l'a choisi volontairement aussi.
Ici.
Moi, ici. Pourquoi? Parce que la marche est partie des Menguet, faut pas l'oublier. Donc, c'est la révolte des gens des quartiers populaires qui exigeaient l'égalité de traitement, l'égalité de droit et de la lutte contre le racisme. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer qu'on voulait continuer ce combat politique pour la revendication d'égalité de droit et de traitement, mais en même temps dire, aujourd'hui, c'est plus nos parents qui vont être dans l'invisibilité culturelle, dans l'invisibilité de leur identité, dans l'invisibilité de leur religion, c'est plus l'islam des caves. On veut, nous, aujourd'hui, revendiquer à la lumière, au vu aussi de tout le monde, le fait qu'on est musulman, mais qu'on est citoyen et qu'on veut participer.
Ça, c'était donc en 1992 avec le premier congrès des jeunes musulmans de France.
Exactement, on a fait 92, alors au préalable.
Et comment il a réagi, donc André Gérin, à l'époque, il était le maire.
Nous, on avait créé l'Union des jeunes musulmans en fin 87. Donc à Lyon, on était déjà, on commençait à se faire connaître sur la place publique. Et on est venu effectivement à Vénissieux, on a ouvert là la tour 15, là, qui est juste là.
En face de nous, là.
Un lieu de culte. Donc là, André Gérin, il était tout ouïe. Le bonhomme, il a été élu grâce aux voix des musulmans à chaque élection municipale.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est certain, et tout le monde le sait, et il suffit de regarder dernier épisode.
Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, à l'époque, tu étais quand même un acteur incontournable face à M. Gérin,
oui.
Donc tu as appelé à voter pour
lui. Oui, nous, on préférait, je le cache pas, même aujourd'hui, moi je préfère voter pour un mec communiste que laisser le Front National prendre une municipalité et m'imposer une politique à Vitrolles ou à ce qu'on a vu à Orange. C'est-à-dire que c'est un mec qui a compris que les musulmans peuvent être rentables politiquement. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs.
André Gérin, à cette époque, est déjà l'interlocuteur. Votre interlocuteur, c'est le maire, donc ici, pour Vénissieux, et donc, a fortiori, du quartier où on est, les Minguettes. Est-ce que, de cette époque, de 92, jusqu'à ces dernières sorties médiatiques, notamment contre la burqa, est-ce qu'il a vu se développer ou non ce que certains appellent, et même beaucoup, le salafisme, ici au Minguette.
Alors, moi, je
ou alors, il n'entrait pas du tout dans les nuances.
Moi, je le défie, et je peux vous prouver par A plus B, qu'il a été le premier à laisser s'installer quelques groupes, effectivement, salafistes, en tout cas d'obédience salafiste sur sa commune, qui sont parfaitement identifiés par les pouvoirs publics, par les RG et par les militants associatifs. Il prétend aujourd'hui faire son combat républicain, n'empêche que c'est un bonhomme qui était à Guantanamo pour aller chercher Mourad et Nizar Sassi, Mourad Ben Chalali.